suite au blocage des négociations avec les Palestiniens. En France, l'État va payer les cotisations de retraite des sportifs amateurs de haut niveau pendant les années où ils portent le maillot de l'équipe de France. C'est ce qu'a promis Nicolas Sarkozy en présentant ses vœux au monde sportif. Et puis le chef de l'État se rend cet après-midi à Lincel aux obsèques des deux jeunes gens tués après avoir été enlevés au Niger. Il a un drôle de nom, le PTZ+, c'est le nouveau prêt à taux zéro, lancé officiellement aujourd'hui en Seine-Saint-Denis par François Fillon. Son objectif, bénéficier à 380 000 personnes, soit deux fois plus qu'avec l'ancien système. Le PTZ+ sera offert à tous les candidats à l'acquisition d'un premier logement. Il fusionne le prêt à taux zéro, le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt et le pass foncier. Un détenu a été blessé par balle alors qu'il tentait de s'échapper de la maison d'arrêt de Fresnes. Déjà auteur de plusieurs évasions, ce jeune homme de 27 ans avait réussi à gagner le toit de la prison. Après plusieurs sommations, un surveillant d'un mirador a ouvert le feu. L'homme est blessé à une cheville. La révolte gronde chez les usagers de la SNCF. La grève de présentation des titres de transport, lancée par des abonnés de la ligne Angers-Le Mans-Paris, va s'étendre au trajet Tours-Paris et au train qui relie Arras, Douai, Dunkerque et Lille. À l'Île-de-France. Depuis le début de l'année, sur cette ligne Angers-Le Mans-Paris, 200 usagers quotidiens refusent de présenter leur titre de transport en raison de la dégradation du service. Et puis la promo 2011-2012 de l'ENA s'est choisie un nom, ce sera Marie Curie. Et ce pour exprimer leur attachement particulier à une France ouverte, capable d'accueillir ceux qui sont nés étrangers, ont expliqué les élèves de la Haute École d'Administration. Marie Curie était d'origine polonaise.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dorda reçoit Deba Damba, Mélis Mel et Tête Raide.
Je m'en fous que les fous soient jaloux.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi prochain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter et la MC 93 Bobigny présentent du 19 au 23 janvier Oncle Vania. Reprise pour 5 représentations de l'un des succès des 25 ans du répertoire de Lev Dodin qui, fidèle à Tchekhov, a axé sa mise en scène sur la passion de la vie. Retrouvez Oncle Vania dans les émissions de France Inter.
France Inter. La différence.
15h05 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Oui, bonjour. On a tous vu cette superbe image d'une Tunisienne brandissant une pancarte qui indiquait « Ben Ali dégage ». Je serais tenté d'ajouter « Sarkozy aussi ».
Voilà, on dit le grand soir, et puis après, on se dit « c'est pas possible, il n'y aura jamais un grand soir ». Ben voilà, pour les Tunisiens, c'est arrivé par une belle soirée de mois de janvier. Ben ils ont eu leur grand soir. Et puis, l'espèce d'abruti, il est parti. Ben voilà, c'est comme ça, le grand soir, ça arrive. Et puis, on va leur souhaiter bonne chance parce que ça fait bigrement plaisir, ça fout les larmes aux yeux. Allez, bisous à tous.
Oui, bonjour, je m'appelle Mariam Marouki, je suis tunisienne, je suis sortie aujourd'hui de Tunisie. S'il vous plaît, c'est le chaos chez nous. Aidez-nous, dénoncez cet assassin, il faut qu'il parte de chez nous, laissez-nous écrire notre histoire. Le peuple tunisien ne veut plus de ce dictateur. Qu'il parte, s'il vous plaît, il faut que le gouvernement français le pousse à partir, il faut que les Français nous aident. Mon pays, il est en feu, les gens sont en train de mourir, on ne veut pas de lui. Il nous a dépouillés, lui et sa famille. Ça suffit, il n'y a plus rien à voler en Tunisie. Il doit partir. S'il vous plaît, c'est le chaos. Merci, au revoir.
Vendredi 14 janvier 2011, état d'urgence en Tunisie. Zine El Abidine Ben Ali s'est enfui sans démissionner. Du coup, le Premier ministre Ranouchi a pris la parole sur la chaîne d'État TV7. Il déclare qu'il assurera désormais l'intérim quelques mois, le temps que la transition se fasse. Pour certains, la Constitution n'est pas respectée. Ce serait au président de la Chambre des députés, Fouad Mbaza, de jouer ce rôle pendant 45 jours, le temps de procéder à de nouvelles élections. Twitter et Facebook continuent de devancer les médias. Il y a des rumeurs d'avions de Tunisiens qui se posent à Malte, au Bourget, puis en Sardaigne, et apparemment l'un d'eux qui prendrait la direction de Dubaï, où Leïla Trabelsi, épouse de Ben Ali, s'est déjà réfugiée. Finalement, on dit que Ben Ali aurait atterri en Arabie Saoudite. Des messages continuent donc de fuser sur les gens qui manifestent aussi cette nuit malgré l'état d'urgence décrété. La violence qui continue, les coups de feu, les pillages par la police ou par les pro-Ben Ali. Toutes ces infos sont difficilement vérifiables, mais en attendant, c'est la société civile dans la rue, avec les téléphones portables qui filment, et ces internautes qui ont pallié l'assourdissant silence des médias traditionnels, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Et Wikileaks, c'est bien faux, n'a rien révélé de nouveau, si ce n'est à ceux qui fermaient les yeux jusqu'à présent. Des photos et des vidéos continuent aussi de circuler sur la toile, notamment sur Facebook. La révolution n'est pas finie, loin de là. Siham Ben Sedrine déclarait ce soir sur France Inter que l'armée ne devait pas prendre le pouvoir. Il faut en effet espérer que l'armée se contente d'assurer le calme, qu'un espace d'expression politique soit vite reconstruit. Dans une vidéo postée vers 22h sur Facebook, toujours par un internaute, Souhaï El Tlili, on voit des manifestants qui se sont rassemblés cette nuit devant la Beladeïa, c'est-à-dire la mairie, d'une ville située à 15 km de Tunis, ou de Lille. Sur la vidéo, un militaire appelle au calme. Puis, la vidéo finit sur les citoyens qui remercient les soldats chaleureusement et leur serrent la main. L'armée, qui désormais assure le maintien de l'ordre à la place de la police, a une bonne image auprès de la population parce que le chef d'état-major de l'armée de terre, Rachid Ammar, s'est fait limoger suite à son refus de réprimer les manifestants. Contrairement à la police qui, elle, a commis et continue de commettre encore de nombreux crimes. Personne ne peut dire ce qui atteint la Tunisie après ce grand soir. Une reprise en main du pouvoir par des cadres du parti de Ben Ali, le bien nommé Rassemblement Constitutionnel Démocratique, ou alors un coup d'état militaire, ou une transition vers un régime démocratique. Les Tunisiennes et Tunisiens assassinés seront-ils morts pour rien?
Oui, Daniel Hervé, ici Lyon, Chevalier de Lyon. Voilà, j'appelle là-bas si je suis. Et ici, voilà, c'est les Tunisiens qui fêtent le départ du dictateur Ben Ali. Je voulais vous dire juste un petit mot. Grosse ville, Daniel. Il y a des centaines et des centaines ici, devant le consulat tunisien. Nous dansons, nous chantons. Allez, nous, à très bientôt, Daniel. Au revoir.
Allô, c'est Ben Ali, là. Allô, je m'aime l'armée, c'est Ben Ali. Ouais, je voulais dire à Tunisie, là. Je t'appelle de Dubaï, là. Je suis tranquille, là-bas, car l'Arabie Saoudite, c'est tranquille. Mais je n'ai rien à foutre, la Tunisie. Je l'avais marre, 23 ans, c'est long. J'ai assez de pognon, maintenant je prends ma retraite, tranquille. Ils se démerdent, la Tunisie. Ils ont qu'à vendre des dates, ils se démerdent. Les islamistes, ils font ce qu'ils veulent. Je n'ai plus rien à foutre, maintenant. Ma femme, elle a son salon de coiffure, elle a tout. Mes enfants ont de l'argent, tout. On est tranquille. Et là-bas, ils se démerdent. J'ai passé des vacances, mais une petite retraite tranquille. Je m'en fous de la Tunisie, ils se démerdent. Le chômage, les jeunes, la rue, tout ça. C'était trop de soucis, j'en ai marre. J'ai tout plaqué, c'est bon, c'est fini. Là, je vais voir mon copain, je vais aller en Sardaigne, chez mon ami Berlusconi, j'ai Bernard Tapie qui m'a invité, j'ai plein d'invitations. Michel Olumarli, je la remercie, elle est vraiment sympathique, parce qu'elle a voulu m'aider, mais c'est pas la peine, Michel. Dites à Michel, tu peux me démerder. Ils se démerdent tout seuls, les Tunisiens. J'en ai pas rien à foutre, maintenant, moi. Je prends ma retraite. J'ai assez de pognon, j'ai du pognon, j'ai plus quoi en faire de tout ce pognon. Allez, salut Daniel. C'était Ben Ali.
Comment Madame Alliot-Marie peut-elle rester ministre des Affaires étrangères après avoir proposé une aide policière de la France au dictateur Ben Ali? Comment est-ce possible? Comment les Français peuvent tolérer d'être représentés à l'étranger par cette personne? Je vous pose la question.
Oui, allô, l'Elysée. C'était pour savoir, c'est à propos de la Tunisie. Est-ce que l'homme africain est bien rentré dans l'histoire maintenant, à votre avis? Hein? Voilà. Au revoir, monsieur Guénaud.
Je lève mon verre pour nos frères tunisiens. Vive la Tunisie! Et la Tunisie en janvier, espérant que l'Algérie, ça sera en février. À bientôt!
Voilà, espérons que ce sera en février. Formidable, ces moments que le monde entier vit autour de ce petit pays, la Tunisie. Émotion, vibration, emballement, fascination, pessimisme, optimisme, grand moment indéniablement. Aujourd'hui, dans la basse, j'y suis, hommage à la Tunisie, aux Tunisiennes et aux Tunisiens qui se sont insurgés, mais aussi hommage à ceux qui ont lutté depuis plus de 20 ans qui sont souvent des amis, mais pas seulement bien sûr, mais qui ont lutté et souvent, parfois, dans la solitude, dans l'adversité bien sûr, et pas loin du découragement bien souvent, et qui enfin, au bout d'années et d'années, voient ce grand jour, ce grand soir arriver. Alors c'est un grand jour, c'est un grand soir, il y a beaucoup de lendemains. Dans une révolution, il y a une contre-révolution. La révolution n'est pas une soirée de gala, disait le grand Mao Tse-tung. Et oui, bien sûr, c'est pas gagné. Il y a un but qui a été marqué. Maintenant, il faut transformer et l'essai, bien évidemment. Mais c'est quand même un grand moment et il y a eu au cours de ce week-end suspendu quand même des moments de bonheur, de plaisir, de vrai plaisir pour tous ceux qui pensent quand même que on peut changer les choses, on peut contribuer à changer les choses. C'est notre thème d'aujourd'hui, hommage à la Tunisie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
C'est un message pour les AMG de Montauban. Nous avons vaillamment terminé 2010 en nous demandant comment ça se fait que la gauche se débrouille toujours pour perdre. Nous étions nombreux, vaillants et constructifs. Eh bien, nous commencerons aussi vaillamment 2011 en traitant une question qui nous est venue à l'esprit cet automne. À quoi servent les syndicats? C'est important. Nous vous attendons mardi, chargé d'arguments, d'a priori, de mauvaise foi, mais aussi prêt à entendre ce que les autres ont à dire. Donc, mardi 18 à 20h30, au Diablotin, 51 rue Sapiac, Montauban. À bientôt.
Je fais partie du comité de soutien aux grévistes du dimanche, présent sur le parking du magasin ED depuis maintenant 67 semaines consécutives. Je tiens à vous remercier au nom de tous pour votre émission qui nous a fait chaud au cœur. Alors notre combat, nous savons qu'il est juste et qu'il est plus que jamais indispensable de le poursuivre. Votre présence à nos côtés dimanche dernier nous a encouragés, nous a motivés. Les témoignages de soutien et les encouragements qui affluent depuis la diffusion nous donnent toute l'énergie nécessaire pour tenir le temps qu'il faudra. Et votre émission, les échanges que nous avons eus à cette occasion, nous ont permis d'imaginer d'autres actions. Nous portons aujourd'hui le souhait commun de parvenir à modifier la loi qui condamne nos dimanches et ainsi notre vie de famille. Nous allons nous y employer et continuer à résister. Alors, merci encore de nous avoir donné la parole et à très bientôt. Au revoir.
Bonjour, je suis un simple citoyen algérien et je voudrais vous signaler l'arrestation d'Ahmed Bedaoui. Hier, aux alentours de 15h, il a été interpellé chez lui à Alger pour sous le motif de tentative de renversement de l'État. Et il y a un article qui lui est consacré aujourd'hui. Vous pouvez aller le voir, c'est sur le site du journal lematin.dz. Lematin.dz, il y a un article qui lui est consacré aujourd'hui. Et également, il y a un rassemblement qui sera organisé samedi, mais qui a été interdit par les pouvoirs en place. Voilà, à Alger. Au revoir.
Satan va. C'est pas l'ami Daniel, c'est Satan. Parce que tu as l'air de te réjouir tellement de tout ce qui se passe. Depuis la Grèce, en juin dernier, tu étais plein d'espoir. Alors pour ces pauvres gens en Tunisie, tu vas les foutre dans les bras des communistes et après ça sera l'islamisme, espèce de ordure, salopard. On devrait t'interdire, tu jouis, tu détestes l'humanité. Allez, va! Tu devrais être dans les géoles tunisiennes. Je te déteste.
Les attentats intégristes que vous entendez parler depuis 20 ans, c'est pas vrai, c'est la sécurité militaire de chaque pays qui fabrique des attentats. On a des enfants et des grands-mères et des grands-pères et des petits-enfants et des voisins et des amis et des frères et des sœurs qui meurent torturés, en prison, exilés, immigrés, tout ça à cause des militaires. C'est les militaires qui tuent dans tous les pays arabes.
Vous, M. monsieur, vous appelez comment ?
Je m'appelle n'importe quel citoyen de n'importe quel pays arabe ou de n'importe quelle dictature, voilà. Je suis une victime de n'importe quelle dictature du monde arabe et du monde. Et je remercie tous les gens qui sont morts et les vivants en Tunisie qui ont enfin réussi depuis 50 ans d'indépendance à se débarrasser au moins d'un dictateur.
Les prochains viendront.
Oui, maintenant qu'il y a un des pays qui a donné l'exemple d'enlever un dictateur, les autres, il faut qu'ils tombent un par un. Même si ça ne plaît pas à X ou à Y, il faut que tous les dictateurs tombent. Oui, chacun son tour ou tous ensemble, ça ne fait rien. Et je dis oui, je dis Alhamdoulilah, c'est-à-dire merci Dieu que je sois encore vivant le jour où un de ces dictateurs est tombé, est parti. Du moment que j'en ai vu un dans ma vie, hein, que je suis vivant là, hein, et ben, du moment que j'en ai vu un tomber, et ben, je vais mourir tranquille. Même si je meurs dans 2 minutes, je meurs tranquille et honoré. Et honoré par tous les Tunisiens, et la jeunesse tunisienne, et le peuple tunisien. Maintenant, on veut que nos richesses nous soient rendues et partagées. Et on veut la justice pour ces voleurs et ces dictateurs criminels. Ils ont du sang sur les mains et de l'argent dans les poches. Dans les poches et dans les comptes en banque. Pendant que nous, on a des jeunes de 20 ans qui se mettent des bidons d'essence sur eux et qui se brûlent. Pour nous, quelqu'un qui s'immole, ça veut dire qu'il s'est sacrifié. Ça veut dire que c'est un sacrifice qu'il fait au nom de la justice pour tout un peuple. Et c'est pour ça d'ailleurs, le peuple lui a répondu. Et maintenant, on veut la justice pour ces gens qui sont morts, des pauvres malheureux.
Nous là, les Tunisiens, on parle parce qu'on sait très très bien, ça y est, là, on sait très très bien qu'elle est partie. Mais le monsieur, si vous avez remarqué tous, il n'a même pas précisé son pays et son nom et son prénom. Juste pour comprendre le blocus. Non, qu'on a dans la tête et le sentiment de peur. Là, nous, les Tunisiens, on parle parce que ça y est, on sait, ça y est, c'est fini, le cauchemar, c'est fini. On parle, je dis, oui, je suis Tunisien, parce qu'on sait que Ben Ali est parti. Le monsieur, il n'a pas dit son nom et son prénom. Juste pour comprendre vraiment le sentiment de peur qu'on a. Moi, hier, c'est vraiment la première fois de ma vie que je me sens que je suis un vrai Tunisien.
Nous avons une grande crainte. Cette révolution va être récupérée par les mêmes.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bassie, j'y suis, avec Charlotte Perry, avec Pascal Pascariello, avec Guy Van Til. Hommage à la Tunisie.
Flight number 2.
Ben Ali,
on n'arrête pas de le dire, c'est la rage qui a vaincu la peur en Tunisie. C'est la rage qui a vaincu la peur. C'est ça qu'il faut... La peur, oui, on a toujours peur. Mais on est enragé, on est devenu... grâce à notre jeunesse. On ne va pas quand même trahir ce message. Il faut continuer à être enragé. Moi, je m'appelle Kemal Jandoubi. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Je ne lirai jamais Bouazizi et les jeunes Tunisiens. C'est la génération de Ben Ali qui a réalisé le rêve de la génération Bourguiba. Moi, je suis très confiant, bon, voilà, donc très fier.
Combien de temps que vous êtes parti ?
Moi, j'ai depuis 1994 que je suis empêché de rentrer en Tunisie, donc ça fait 17 ans.
En 1994, vous êtes interdit de retourner en Tunisie, pour quelle raison ?
Parce que depuis ce temps et bien avant, je m'activais évidemment à dénoncer toutes les violations d'un véritable système d'assassinat des libertés qui a été mis en place depuis 87 et bien avant d'ailleurs. D'un système despotique, d'un système dur, policier, bien sûr corrompu, enfin bref, toutes les caractéristiques d'une belle dictature, d'une si belle et douce dictature comme l'avait décrite avec Membrik. J'ai perdu des amis et j'ai beaucoup d'amis qui ont énormément souffert, qui ont été torturés, emprisonnés, humiliés, dépossédés, forcés à l'exil. C'est un prix lourd, mais c'est un prix qu'il a fallu payer pour arriver à aujourd'hui. Je rentre pour...
Est-ce que vous rentrez demain,
Oui, je rentre demain et j'arriverai à Tunis à 14h. Je ne sais pas dans quel état je serai, franchement.
Hein. Est-ce que ça fait... Donc 94, ça fait
17 ans.
Tant
pis si je craque. Et alors ? C'est comme ça, la vie. Est-ce que je me suis retenu, peut-être, pendant longtemps. Bon, voilà.
Vous allez faire quoi? La première chose que vous allez faire en arrivant, c'est quoi?
Ah, la première chose. J'ai envie de faire mon deuil. J'ai perdu mon père. On m'a empêché d'aller l'accompagner jusqu'au cimetière. J'ai perdu ma mère, je ne l'ai pas vue. Et donc, j'ai envie de faire mon... Et puis, j'ai envie d'aller à Sidi Bouzid. J'ai envie d'aller voir cette ville et surtout d'aller sentir Bouazizi, que je n'oublierai jamais. Et j'ai envie que dans toutes les villes de Tunisie et puis d'ailleurs, peut-être, du monde arabe, on nommera une place à la mémoire de Sidi Bouazizi, et plus qu'une place. Il s'est sacrifié, mais il nous a donné la vie.
C'est le jeune homme qui s'est immolé.
On revit. Il y a une nouvelle, une Tunisie qui vit. Il y a un accouchement absolument formidable qui est en cours, douloureux, mais avec, comme tout accouchement, une fierté, une joie superbe, mais en même temps, une souffrance. Hein. Probablement, il y en a d'autres Tunisiens qui vont payer encore davantage, parce que la situation n'est pas encore claire. Et puis bon, j'ai envie d'aller à Ardaïf et à Gafsa. Je pense, je crois que c'est eux qui ont donné le déclenchement du changement. Peut-être qu'on n'a pas si bien et assez bien analysé ces événements du bassin minier, hein, qui a vu toute une population de toute une région entière s'organiser pendant six mois, pacifiquement, avec des superbes manifestations. Équipe brandissait les mêmes mots d'ordre, je veux dire, contre la corruption, pour l'emploi, etc.
Rappelez quand ça a eu lieu, justement, ces meutes.
C'est passé en 2008. Et bien sûr, il y a eu au moins 3 ou 4 morts. Il y a eu des centaines d'arrestations. Et j'ai envie donc d'aller à Ardaïf, là-bas.
Qu'est-ce que je dois vous souhaiter? Vous appréhendez un peu ou pas?
Beaucoup. Ah. Je suis conscient que je vais être en décalage. 17 ans d'absence, c'est quand même beaucoup. En décalage, les enfants que j'ai laissés à 10 ans d'âge, ils ont 27 ans, ils ont des enfants. Moi, je me renais. Bon, j'arrive à un âge quand même.
Et... Vous avez quel âge?
Ah, j'ai 58 ans, mais bon, je crois que je peux mourir tranquille, même si c'est la vie qui naît. Parce que j'ai un rêve qui a été réalisé, même s'il est parfois un peu entaché de... Ouais. Mais enfin, c'est un rêve quand même. Chez nous, il y a quelque chose qui est revenu, c'est que quand on veut exprimer un sentiment fort, on dit « maintenant, je peux mourir ». Donc maintenant, je peux mourir.
Voilà, hommage à la Tunisie aujourd'hui, hommage aux Tunisiennes et aux Tunisiens qui se sont insurgés en redonnant au mot peuple tout ce qu'il peut contenir de possible, tout ce qu'il contient de devenir, et hommage avant tout à ces lutteurs de fond qui ont, durant toutes ces années, 20 années, parfois davantage, ont donné les plus belles années de leur vie contre la répression, contre l'oppression. Une lutte souvent sournoise, faite de délation, de basse police. Alors aujourd'hui, je disais, c'est l'emballement, comme nous disait vendredi Taoufik Ben Brik. Aujourd'hui, tout le monde est courageux, tout le monde a résisté. Les antennes sont pleines de combattantes de la 25e heure. Du côté des médias et du côté politique, c'est le bal habituel des focus et la java des opportunistes. En pourcent persuadé, il y a ce mot de contamination, risque de contamination, comme si ce qui se passait en Tunisie était une maladie. Kamel Jandoubi retourne dans son pays après 17 années d'exil en France. Et il fait partie de ceux qui, à l'intérieur, à l'extérieur, pour ce qu'il concerne un exil forcé où il se trouvait, ont lutté inlassablement, avec courage, avec détermination, souvent au bord du découragement, au bord du désespoir. Et ça donne évidemment encourager tous ceux qui, sur des causes diverses, s'engagent et se demandent quand est-ce qu'on verra une quelconque lueur au bout du tunnel. Et bien voilà, ça arrive, ça peut arriver, mais on va le voir. C'est long, c'est très très long. Les médias, c'est court, c'est les explosions, c'est les événements, mais l'histoire est lente, très lente. Et ce que nous devons aujourd'hui, ce que les Tunisiens doivent aujourd'hui, et peut-être effectivement d'autres pays comparables, d'autres pays arabes, ce sera quand même le résultat de cette longue et patiente lutte, cette lente impatience des Tunisiens. L'une de ces lutteuses de fond, c'est Siem Ben Cedrine, qu'on a rencontré à plusieurs reprises dans cette émission, que vous connaissez tellement elle est présente, et c'est très bien, un peu partout sur nos antennes et partout, que nous avons tout de suite appelé vendredi, dans les minutes qui ont suivi, l'annonce du départ de Ben Ali. Elle n'arrive pas tout à fait à réaliser, vous allez l'entendre, et elle parle au présent et au passé. Siem Ben Cedrine. Siem, c'est Daniel.
Salut Daniel.
Oui, alors dis-moi...
Mabrouk Alina, on est heureux, ce régime pourri est tombé, on est dans la liesse.
Ouais, alors il vient de quitter le pays.
Oui, il a quitté le pays aux alentours de 6h15.
Depuis combien de temps vous attendez ça?
Oh, nous en avons rêvé, moi personnellement, j'ai commencé à en rêver depuis 1991, depuis le jour où il a mis sa machine de guerre contre la société civile, contre nous et contre moi en particulier. C'est depuis 91 que je souffre de ce tyran qui interfère dans la vie privée des gens, qui ne recule devant aucune lâcheté pour punir quelqu'un d'un acte d'indépendance, pas simplement d'opposition. Il est prêt à punir la famille, les enfants, les voisins, tout le monde paye pour justement faire régner la terreur. Il a pillé notre pays, il nous a humiliés. Et là, c'est la révolte contre l'humiliation. Et les Tunisiens ont été déterminés jusqu'au bout. Ils ne veulent pas de lui et ils ont obtenu qu'il parte. Il est parti, il est tombé. Et sa belle famille, ils sont actuellement emprisonnés. Sa femme s'est enfuie avec les lingots d'or, mais elle va être rattrapée. Comptez sur nous.
Comment tu sais qu'elle est partie avec les lingots d'or ?
Parce que Dirk Bakar, le directeur de la Banque centrale, a hésité à appeler le président pour lui dire s'il autorise les lingots d'or qu'elle lui demande. Et le président l'a engueulé en lui disant « tu fais ce qu'elle te dit ». Et elle est partie avec les lingots d'or, ça fait au moins un peu plus d'une semaine.
Siem, vous êtes informé par la télévision ?
Écoutez... en ce qui concerne la chute de Ben Ali, oui, par la télévision. Parce qu'ils ont annoncé à 7h une annonce importante et Al Jazeera a dit cette information une demi-heure avant, donc on l'a eu, que c'est la Constitution qui prévoit que le président de l'Assemblée nationale serait celui qui assure la transition en cas de vacance de pouvoir. Et là, on est dans le cas de figure de la vacance de pouvoir, il a fui. Et donc, c'est lui qui va assurer formellement la transition. Mais c'est l'armée qui a fait le coup d'État. C'est un coup d'État. C'est quelque chose qui ne nous échappe pas. En tant que défenseurs de droits humains, en tant que civils, nous ne voulons pas que l'armée nous gouverne. Et nous espérons que ce volet n'entache pas l'aspect positif de la chute du régime corrompu et tyrannique de Ben Ali.
Alors donc, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État militaire.
Oui, 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 c'est l'armée qui l'a délogé.
Quelle confiance vous faites dans cette armée ?
Non, mais je ne fais aucune confiance à aucune armée. J'ai appris à ne plus faire confiance à aucune armée. Moi, je veux des gouvernements civils. Maintenant, si l'armée nous a débarrassés de lui et qu'elle rentre dans ses casernes après s'être assurée qu'il y a des élections libres et démocratiques, là, je tire mon chapeau, bien entendu. Mais je me méfie quand même.
C'est une hypothèse possible ? Est-ce que l'état-major est régulier et...
Personnellement, je suspecte une interférence étrangère. Hein. Ce n'est pas un acte spontané. Je suspecte une interférence étrangère et j'espère qu'on ne nous confisquera pas notre révolution.
Siem Ben Cedrine, ça fait quasiment 20 ans que vous vous battez contre ce régime. Vous et vos amis, comment vous expliquez que pendant toute cette période et même auparavant, la France a toujours soutenu Ben Ali et son régime? Comment vous expliquez ça?
C'est son enfant chéri. C'est eux qui l'ont construit. C'est eux qui lui ont apporté toute forme de soutien, et technique, et logistique, et politique. Et ils ont tout fait pour fermer les yeux sur toutes ces exactions. Ils n'ont jamais été à la hauteur de leurs engagements officiels et formels, qui sont les engagements de la France, qui est quand même le pays des droits de l'homme. Pour moi, ils ont trahi un peu leurs valeurs, et enfin, je parle de la France officielle, hein, parce que il y a l'autre France qui nous soutient et que grâce à elle, grâce aux médias, grâce à la société civile qui s'est mobilisée, des gens qui sont descendus dans la rue, grâce à tout cela, le peuple tunisien a repris confiance et a délogé ce dictateur.
Alors, actuellement, à quoi ressemble la ville? Vous avez pu sortir, écoutez, voir un peu quelle est l'ambiance?
Il y a le couvre-feu. En tout cas, les Tunisiens sont heureux. Ici, moi, je suis à la maison, tout le monde crie, tout le monde se félicite. Vous savez, c'est un poids énorme. Vous n'imaginez pas qu'est-ce que ça veut dire vivre sous une dictature. Vous n'imaginez pas qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un pays où vous n'avez absolument aucun droit, que votre liberté, vous n'en avez absolument aucun petit bout, qu'on décide pour vous ce que vous devez penser, ce que vous devez faire, comment bouger, dans quelle direction vous mouvoir, et que c'est ça votre vie, durant des années et des années. Pour nous, c'est un énorme soulagement. Mais je reste vigilante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'accepte pas un deuxième 7 novembre. Le 7 novembre, il y avait aussi la liesse. On était content qu'ils nous débarrassent d'un régime vieillissant, sénile et qui était complètement pauvre.
C'était quoi le 7 novembre, Siem?
Le 7 novembre, c'était le coup d'État de Ben Ali qui a délogé Bourguiba pour sénilité. Et on était content parce qu'il nous a promis la République, il nous a promis la démocratie, il nous a promis les libertés et tout. Et il a fait tout le contraire. On en est à regretter Bourguiba, à dire qu'après tout, le dictateur Bourguiba, ben, au moins c'était un homme éclairé, au moins c'était un politique, au moins il y avait une marge pour l'espace public où on pouvait se déployer. Là, il a transformé la Tunisie en une caserne, pire, en un commissariat de police, et il nous a traités en délinquants pendant 21 ans. Et c'est cela, le grand cri des Tunisiens contre ces humiliations accumulées pendant des années et des années.
On n'a pas tellement eu le temps de comprendre qui était véritablement dans la rue. On a compris qu'il y avait des étudiants, on a compris qu'il y avait des chômeurs diplômés, on a compris qu'il y avait des avocats, on a compris qu'il y avait des artistes. Qui était dans la rue tous ces jours-ci?
Daniel, tout le monde était dans la rue. Aujourd'hui, des chefs de service hospitalo-universitaires étaient dans la rue. Des médecins, des avocats, des hommes d'affaires étaient dans la rue. Tout le monde était dans la rue. Les pauvres, les riches, les moyens et l'élite et l'ouvrier ordinaire qui balait les rues, tous. Et c'était quelque chose que nous avons partagé ensemble et qui donne le sentiment que ce peuple est capable de dire non et qu'il est déterminé, qu'il a décidé qu'il ne reculera pas devant n'importe quoi, que même la vie qui est la chose la plus chère à un être humain, que même la vie, il est prêt à la perdre pour revendiquer sa dignité et sa liberté. J'espère que ce nouveau gouvernement qui va nous diriger va au moins tirer la leçon et comprendre que en maltraitant les Tunisiens, un jour, il va falloir passer à la caisse et payer la facture.
Oui, Siem, je me souviens, on est venu vous voir à Tunis il y a une dizaine d'années et on nous disait, ah oui, mais là, vous avez rencontré des intellectuels, des militants, des gens qui sont engagés dans les affaires de droits de l'homme, etc. Mais c'est un petit monde très, très limité, très surveillé, mais très, très limité. Mais la Tunisie profonde, les Tunisiens en général, ne se soucient pas de ces histoires-là. Ils sont complètement dépolitisés, ils sont intéressés par la consommation, par la vie quotidienne, etc. La Tunisie profonde n'est pas du tout derrière cette poignée d'agitateurs. Je me souviens très très bien de ça. Et nous, on essayait de prouver le contraire. Vous nous aviez d'ailleurs aidé à prouver le contraire parce qu'on avait rencontré des gens qui étaient en proie à la répression. Mais on voit qu'en fait, à l'époque déjà, évidemment, il y avait sous cet aspect difficile à comprendre une révolte qui était en préparation, ça fermentait et le peuple était en train de mûrir sa révolte.
Absolument, absolument, vous l'avez bien vu, Daniel. C'est un gros mensonge que le peuple tunisien était content avec Ben Ali parce que Ben Ali lui donnait à manger. Vous savez, le peuple tunisien, c'est un peuple entrepreneur. Il est très débrouillard et il est bosseur. C'est un peuple de bosseurs. C'est-à-dire que la croissance économique qui a été confisquée par Ben Ali comme image de bonne gouvernance
elle ne lui appartient pas. Et donc le fait qu'il y ait de la croissance, ça a été utilisé par notamment les démocraties européennes comme étant un argument contre la liberté des Tunisiens. Or, le Tunisien voulait aussi sa liberté, il voulait aussi sa dignité, il ne voulait pas que le pain. Et là, on lui donnait à choisir et on a utilisé une répression féroce. Daniel, vous avez goûté de cette répression féroce.
Oui, oui.
Et vous êtes un étranger, et vous êtes un journaliste, vous êtes doublement protégé, et vous avez vécu qu'est-ce que c'est une répression de Ben Ali. Et imaginez-vous, un Tunisien non protégé, qui n'est pas journaliste, et qui est à la merci de sa police, qui font ce qu'ils veulent de vous, qui vous détruisent votre vie, qui détruisent la vie de vos enfants. Bien sûr, les gens ont eu peur. Mais petit à petit, ils ont commencé à dire tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Et petit à petit, ils ont commencé à parler dans les rues.
Ce qui est étonnant aussi, Siem, c'est que vous nous dites, oui, c'est tout le monde qui était dans la rue. On n'a pas distingué, vu d'ici, de partis politiques, de mouvements politiques définis. On a compris que le grand syndicat de l'UGTT était présent et architecturait un petit peu le mouvement. Ça, c'est une première observation. La deuxième, c'est que le peuple n'avait pas d'armes.
Absolument. Non seulement il n'avait pas d'armes, il n'a jamais cherché à en avoir. Non seulement il n'a pas cherché à en avoir, mais il n'y a eu aucun acte terroriste, aucune bombe qui a éclaté dans aucun endroit. On ne peut pas alors leur attribuer les vandalismes qui ont eu lieu. Ils ont eux-mêmes, dans certains endroits, protégé des bâtiments et les commerces et les biens privés de la prédation de ces milices que a lâché Ben Ali pour justement salir le mouvement. Et donc dire aujourd'hui que Ben Ali était le rempart contre l'islamisme et qu'on avait le choix entre Ben Ali et les talibans, ça c'est le gros mensonge qui est tombé aujourd'hui. Et c'est un gros mensonge que Sarkozy, les dirigeants européens n'ont pas cessé de répéter et de balancer à la gueule des défenseurs de droits humains qui le répétaient. Ce régime est un régime dictatorial et corrompu. Vous ne pouvez pas continuer à le tolérer. Vous ne pouvez pas continuer à voir cet accord d'association que vous avez fait avec la Tunisie en tant qu'Europe violé quotidiennement sous prétexte que on a le choix entre lui et les talibans. Eh bien, il n'y a pas de slogan islamiste. Pendant 4 semaines où les Tunisiens étaient soulevés, il n'y a pas eu un seul slogan islamiste. Qu'on nous dise où, quand ça a été dit. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas un peuple de terroristes. Nous sommes un peuple modéré. Nous avons des gens qui sont des musulmans. C'est la religion majoritaire, mais nous sommes des tolérants et nous acceptons parfaitement de vivre les uns avec les autres avec des opinions différentes. Ce peuple est extrêmement mûr pour la démocratie. Qu'on nous laisse vivre notre démocratie. Qu'on ne nous la confisque pas à nous.
Siem, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez faire quoi?
D'abord, on fait la fête ici et après, on va tous sortir parce qu'il faut qu'on partage ça ensemble. Vous n'imaginez pas ces scènes de partage qu'on a vécues ces derniers jours, même si c'est parfois des balles que les gens ont partagées, mais c'est un petit sentiment très fort qui fait que le Tunisien est fier d'être Tunisien, fier d'appartenir à ce peuple civilisé qui a osé faire une insoumission civique et qui a délogé un dictateur sans utiliser un seul coup de feu et en recevant de nombreuses balles. Mais nous sommes fiers d'avoir payé le prix de notre liberté.
Siem, je t'embrasse.
Merci, merci. Et nous partageons cette joie que nous vivons aujourd'hui avec vous aussi.
Ladies and gentlemen, we represent your ex-master show for Tunisia.
Micro-Maghrébin. Ça part des champs, des mines, des gens qui crient famine, qui laissent le futur pour le destin en farine. Des murs et des murs tombent tous les jours, c'est la pauvreté qui annonce son retour. C'est le temps passé qui revient en temps passé. On restera pas là en train de tout mater. On attend de passer ce qui va se passer. Notre lendemain est un demain face cachée par les gens qui veulent cacher notre vérité. Qui se la wesh les chefs de destin de notre futur, qui se la wesh les responsables de notre culture. C'est pour ça qu'on passe le message en rap pur. C'est pour ça qu'on n'oublie pas notre passé dur. On rap pour le bien des gamins de demain. On rap pour réveiller toutes les forces du bien. Venez à l'aide des gamins du ghetto. Cassez les murs entre vous et le ghetto. Cassez les murs entre vous et le ghetto.
Oum el ghetto, rattach la fête, oum el ghetto. Oum el ghetto,
Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler avec Taoufik? C'est Daniel Mermet.
Ah, bonjour. Oh, je suis contente. Ah, c'est la liesse hein, ici, hein, finalement. On avait peur parce qu'il commençait à faire des tactiques. Et puis, il était surtout soutenu par Sarkozy. Hein.
Pas seulement,
Jusqu'au dernier moment, il a soutenu. Les USA voulaient le départ de Ben Ali, conformément à la volonté du peuple. Et Sarkozy ne voulait pas. Donc, il y a eu un compromis, un gouvernement transitoire en attendant 2014, tout ça. Donc, aujourd'hui, c'était le déferlement de toute la population dans les grandes villes pour dire non à Ben Ali. On s'en fout de l'avenir. On veut le départ de Ben Ali et sa famille. On veut les juger pour la corruption. On veut les juger pour le terrorisme dont on nous en fait subir. Donc les gens n'ont pas arrêté de scander cela. Le monde entier a vu que le peuple tunisien était déterminé à arracher sa liberté. Et quoi qu'il en soit, il paiera cher. Il ira jusqu'au bout. Il ne lâchera pas. Donc on a vu que c'était fini. Hein. Donc il n'avait plus d'autorité. C'était la désobéissance. Donc, du peuple.
Aza, oui. Depuis quand vous vous battez contre Ben Ali? Depuis combien d'années?
Écoutez, moi et Taoufik, on a été licenciés, parce que moi aussi j'étais journaliste, en 1989, on a commencé à faire une enquête sur la liberté d'expression en Tunisie, une série donc d'articles, et suite à cela, on a été licenciés. Donc nous avons milité contre Ben Ali depuis 1989.
22 ans de voilà. Combat contre Ben Ali.
Absolument, oui.
D'accord. Est-ce que Taoufik est là?
Oui, oui.
Tu peux me le passer? Ok, merci Aza. Ah.
Daniel.
Aïe, aïe, aïe.
Banzai. Mais on l'a eu à la fin.
Tu te rends compte? Quelle lutte.
C'est un quart de siècle, un corps à corps avec lui. À la fin, il est sorti comme une salope. Ouais. Honteux, comme un chien. Moins qu'un chien, parce que le chien reste un chien. Mais Ben Ali est moins qu'un chien. Voilà.
Il va te manquer.
La vérité, non. Et je vais aller boire un café au centre-ville.
Oui.
Il y a longtemps que je ne suis pas allé. Je me suis assigné à une résidence surveillée depuis longtemps.
Ouais.
Je l'ai eu. C'est une question personnelle. c'est une cause à nostra. Tu vois, je me sens que je l'ai eu. Mais maintenant, tout le monde est devenu courageux. Hein? Mais il y a longtemps que pratiquement j'étais comme Clint Eastwood, seul dans la ville. Je bataillais comme un don. D'ailleurs, toi aussi, tu me l'as dit. Comme il est venu comme Don Quichotte avec sa lance en bois sous les bras.
Bon, écoute, c'est formidable ce qui arrive là. Hein.
Oui.
On va suivre ça de près. Ça montre qu'on ne perd pas toujours quand on se bat, quoi. Et vous vous êtes drôlement bien battus les uns et les autres. Et tu as raison, depuis longtemps. Je pense qu'effectivement, maintenant, tout le monde devient courageux chez vous. Mais il y en a qui le sont depuis longtemps, quoi. Et ça, il faut les saluer. Et les embrasser. Et je t'embrasse.
Moi aussi. Allez, ciao.
Hommage à la Tunisie aujourd'hui, hommage à ceux qui, aux lutteurs de fond, voilà des exemples, Siem Ben Sedrine, Taoufik Ben Brik, Kamel Jandoubi, il y en a d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres qui se sont battus, on ne peut pas rendre hommage à tous, surtout des anonymes qui ont résisté, parfois d'une manière qui n'était pas publique, mais sous, dans les caves, dans les, une façon souterraine comme ça, très discrètement et qui ont mûri et qui ont permis ce printemps tunisien, cet merveilleux moment que la Tunisie offre au monde, parce que c'est un encouragement pour tous, c'est pas seulement limité à ce petit pays. Bien sûr que qui dit révolution dit contre-révolution, on sait pas très bien où on va, maintenant on va voir si cette révolution peut... Quelle va être sa traduction politique, quelle va être sa traduction dans la vie courante. Là, l'histoire trébuche, l'histoire hésite en ce moment. Mais on évoquait avec Siem Ben Cedrine à l'instant l'histoire de tout ça, cette longue, longue lutte. Et voilà un extrait d'un moment que nous avons passé avec eux, avec Siem et Omar, il y a une dizaine d'années, en septembre 2000, avec Give, et nous n'étions pas seuls. Autour de nous, il y avait les amis de Ben Ali.
Vous êtes qui, vous ?
Et qui êtes-vous ?
Ça, c'est le coup classique, quoi. On vient d'être arrêté par... un type qui dit pas qui il est, qui ricane quand on lui demande, et qui se met en travers,
qui se met en face de nous.
Et qui est en train de faire les 100 pas avec son téléphone portable. Mais ça fait un bouton qu'il y avait deux voitures qui nous suivaient à tour de rôle, quoi.
Mm-hmm. Ça vous arrive souvent, ça ?
Ouais.
Oui, mais braquer comme ça, c'est nouveau. D'habitude, quand même, ils nous laissent nous garer. Ou ils nous arrêtent autrement. Je sais pas.
Ah oui, il y a des copains qui est arrivé derrière.
Oui, je pense qu'il attendait des copains, c'est ça. Et son nombre, tu dis le nombre de personnes qui sont là. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ils sont 8.
8 personnes pour une pour moi.
Oui.
Parfait. Aslam.
Al-Assam.
Amal tu interview m'gir wacht.
L'interview
m'gir terkhis.
Nal m'kali ma famesh terkhis pour l'interview. Ou huma fi ma yخص الرخص الرسميه عملوها.
شكون هم؟
هما فرنسا انتر
اي
وعندهم رخصهم شيء
احنا بالنسبه لنا احنا ما عندناش ترخيص
ليه هو مش منك انت باش يطلب ترخيص هو ما يطلبش ترخيص منك هو يعلم
انا نتكلم فيك سلطة
اي فهمتك لكن انت سلطه تنفذ القانون مش تتجاوز القانون
لا
اي القانون ما يقولش اللي عندك الحق باش
مانيش نتجاوز القانون
اسكو دي
هاني قلت لك تتجاوز في القانون
ديك vous avez fait des interviews
sans lui demander son autorisation
à qui à ce monsieur
oui il est le chef du district de Sfax.
Soyez le bienvenu en Tunisie, monsieur.
On doit vérifier les appareils.
Non. Non.
Je suppose.
Si. Est-ce qu'on appelle l'ambassade tout de suite, monsieur? Est-ce qu'on appelle l'ambassade de France tout de suite?
On vérifie pas.
Bon, alors on va appeler l'ambassade.
S'il vous plaît.
Non, non.
Bienvenue en Tunisie.
Vous nous donnez le
truc
pour vérifier?
Non, c'est hors de question. Vous n'êtes absolument pas disposé, vous ne nous avez même pas montré un document.
Il n'y a pas de document et on a page. On n'obtempère pas.
Non,
je refuse.
Ferme ta porte.
Je refuse.
Non, ils sont en train de nous forcer.
Non.
Ne touchez pas, monsieur. Ne touchez pas.
Voilà, bienvenue en Tunisie. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Le samedi 9 novembre, vers 23h45, à Madia, en Tunisie, nous étions Guy Vanctil et moi, accompagnés de Siem Ben Cedrine et d'Omar Mestiri, qui sont deux opposants tunisiens. Et nous avons été agressés par des hommes prétendant appartenir à la police tunisienne. Et ce qui montre une fois de plus que nous devons, c'est vrai, remercier la police tunisienne et les services tunisiens qui nous permettent de montrer de manière probante, éclatante, la vraie nature de ce régime. Nous sommes retournés en Tunisie. Vous vous souvenez qu'on y était allé en janvier dernier. Nous avions fait une série de reportages là-bas, dans les milieux des opposants, autour de la question des droits de l'homme. Nous avions eu un collaborateur qui s'appelle Taoufik Benbrick, qui depuis s'est fait une réputation, une renommée mondiale, on peut dire. Et donc, comme notre ami Taoufik Benbrick, ce jour-là, le 7 septembre dernier, rentrait dans son pays avec ce qu'il appelle un bouclier médiatique, c'est-à-dire des équipes de journalistes, de télévision. Il était également accompagné de parlementaires européens, ainsi que de représentants de Reporters sans frontières et de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et donc, nous avons profité de ce retour de Taoufik Benbrick dans son pays pour l'accompagner et aussi pour faire quelques reportages, les reportages qu'on nous avait confisqués en janvier dernier. On a failli nous les confisquer une seconde fois, mais grâce à des amis courageux, les cassettes nous sont parvenues et ces reportages que nous vous proposons à partir d'aujourd'hui.
Si on était, je vois toujours les TF1, France 2. Dès qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, vous faites une grève ou quelque chose, ou vous révoltez dans la rue avec de grandes personnes, vous écrivez des pancartes comme ça, non, on veut pas ça, on veut pas ça. Mais non. On ne peut pas faire ça. Sinon, ce serait de grands problèmes. Je peux le dire à haute voix, vraiment. La justice n'est pas à la portée de tout le monde. C'est dur.
Mais on a l'impression quand même dans ce pays que si on relève la tête... Si
on va couper.
T'es sûre de ça?
Oui, je suis sûre. On était dans le lycée.
Pour Taoufik, tu parles de Taoufik?
Oui, maintenant. On essayait de parler de ce qui se passe vraiment en Tunisie, la justice et telle chose. Et il y en a un élève, il devait passer son bac cette année, l'année dernière. Mm-hmm.
Ici à Hammamet.
Oui. Ils l'ont dénoncé. Ils ont dit, ils parlaient de la politique, ils parlaient de telle chose. La police, elle est venue le chercher. Il n'a pas passé son bac. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vu à Mamet. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. C'est vrai, ça.
Ces phrases vous semblent peut-être pas extraordinaires. Pour nous, tout ça va de soi. Mais pour cette jeune Tunisienne, c'est beaucoup de courage. Elle dit que quand on redresse la tête, on vous la coupe. C'est pas sûr. Il semblerait que ces derniers temps, ceux qui, au contraire, ont levé la tête, exemple Taoufik Benbrick, mais il n'est pas le seul dans ce pays, et notamment à Tunis, eh bien, le pouvoir a reculé. Mais personne ne peut vous dire si les choses sont un petit peu en train de se normaliser, ou au contraire, si, à un moment ou à un autre, la répression va à nouveau se durcir. Depuis des années, c'est une alternance comme ça de chaud et froid dans ce pays. En tout cas, là, Tunisie profonde bouge. Et en voilà la preuve, on est dans une petite ville du sud de la Tunisie où des étudiants, en février, ont manifesté. Chose extraordinaire, toutes ces étudiants reçoivent des journalistes. C'est un moment tout à fait rare, tout à fait extraordinaire. Ça nous vaudra par la suite l'arrestation que vous avez entendue il y a un instant. Rencontre. C'est un endroit délicieux ici, hein. Il y a une odeur de jasmin, on dirait vraiment la Tunisie des cartes postales.
بالنسبة للحكاية بدأت نهار 8 فيفري 9 متاع الصباح في بين ما فما حتى نية متاع نتاع فعل هالعمليه. بدات في بالنا مش نبداو 8 نتاع الصباح، شويه ما جاتش الحكايه بالباهي، دونك بديناها 9.
سيتي دونك لو 8 فيفريي à 9h du matin. On était dans la cour de l'école.
في الاول ما كانوش برشا تلامذة، 3 ولا 4 تلامذة، وبعد بحس التصفير وبحس الضربان على الكراتب تلمدوا برشا عبيد.
Nous avions entendu un bruit sur la l'augmentation du prix du pain. On s'était rassemblés quelques-uns à mon initiative au sein de la cour et on a commencé à siffler et à taper sur le cartable. C'est un peu la méthode que nous avons l'habitude de procéder ainsi quand nous voulons rassembler les lycéens.
بعد التجمع نتاع التلامذة الكل، فما هذا فيش بنيانة بالذات نمشيو، فما ليسي بجنبنا جبنا التلامذة نتاعه دو ليسي ليبر غاديك، تلمدنا التلامذة الكل وخرجنا لوسط البلاد.
Une fois que les lycéens du 18 janvier étaient réunis, nous avons comme tradition à Jbeniena de sortir de l'école et de passer près des 2 écoles privées qui sont à proximité de notre lycée et de, on fait sortir les lycéens. Et c'est ce qui s'est passé. Donc nous étions sortis, l'ensemble des lycéens, et nous sommes passés devant les 2 lycées privés et nous avons continué à siffler. C'est comme ça que les autres lycéens nous ont rejoints.
Vous étiez combien au total ?
2000.
À 2000 ?
2000.
Une manifestation à cause de l'augmentation du prix du pain. C'était ça le motif, c'était ça l'étincelle.
Oui, c'était une femme, c'est de... يا بطال مسكين الدخان زاد ما نعرفش 60 ولا ما نعرفش حتى على الدخان معناها وقتها.
Un autre slogan équivalent aux chômeurs, même les cigarettes ont augmenté. Et puis d'autres slogans anti-gouvernementaux.
ذي بعد ما تشدوا شوية أولاد يا اليوم تونس بلاش نسيت الحق عندك برشا اليوم تونس بلاش حكومة.
Aujourd'hui la Tunisie est sans gouvernement.
Et sans gouvernement.
Sans gouvernement, oui.
Une grande mentalité de grève et contre le gouvernement, comme ça. Elle est sortie naturellement.
C'est sorti naturellement comme ça.
Comme ça.
Ouais. Vous dites que la Tunisie est sans gouvernement, elle n'a pas de gouvernement. Au fond, c'est presque la première révolte, non ?
C'était la première. Et ça a beaucoup remué le gouvernement de Ben Ali.
Voilà, c'était il y a 10 ans, vous avez entendu, cette grève et ce mouvement des étudiants contre l'augmentation du prix du pain. C'était un hommage à la Tunisie, aux Tunisiennes et aux Tunisiens, mais aussi aux lutteurs de fond, à ceux qui ont tenu le coup. Inutile de dire que ces grévistes, ces jeunes, ont été à l'époque durement réprimés. Merci à tous. C'était Là-bas, si j'y suis, avec Charlotte Perry, Pascal Pascariello et Guy Vanctil. Merci à Siem Ben-Cédrine, Kamel Jandoubi. Merci à Taofik Benbrick et à Aza. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. Sophie Moreno et Patrick Henriette étaient la technique aujourd'hui. Cogne Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Le Bot. Marina, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Avec la GMF,
Alex est serein. Il a choisi Autopass, l'assurance auto
de la GMF,
qui lui fait faire 10% d'économie quand il roule peu. Alors oui, Alex chante un peu faux, mais il est enfin serein.
Grâce à la GMF.
Il peut donc penser à autre chose qu'à son assurance auto. Ce qui est humain après tout.
GMF, assurément humain.
Et avant le 31 janvier, la GMF vous offre les 2 premiers mois de votre assurance auto. Conditions au 0970-809-809 ou sur gmf.fr.
16h45 sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Les pays occidentaux ont sous-estimé l'exaspération de l'opinion publique tunisienne face à un régime policier et dictatorial. Déclaration en forme de mea culpa du ministre de la Défense Alain Juppé, alors que l'opposition critique toujours le silence des autorités françaises pendant la révolte qui a abouti à la chute du président Ben Ali. Aujourd'hui, la France annonce qu'elle est prête à coopérer avec la Tunisie pour décider du sort des biens immobiliers détenus par le clan de l'ancien président. Pour empêcher la fuite de leurs avoirs financiers, deux ONG spécialisées dans la lutte contre le blanchiment vont déposer plainte à Paris. Sur le terrain, l'insécurité persiste du fait des membres de l'appareil sécuritaire de l'ancien président. Des manifestants ont réclamé ce matin à Tunis la dissolution du RCD, le parti de Ben Ali. Le pays est suspendu à l'annonce d'un gouvernement de transition où pourraient figurer d'anciens ministres du président déchu. En Côte d'Ivoire, le premier ministre kényan Raila Odinga, médiateur de l'Union africaine, est arrivé à Abidjan. Il va tenter une nouvelle fois de convaincre le président sortant, Laurent Gbagbo, de céder le pouvoir à Alassane Ouattara, dont l'élection a été reconnue par la communauté internationale. Un Boeing 777 d'Air France qui reliait Paris à New York a effectué un atterrissage de sécurité en Islande. En cause, le malaise d'un des pilotes. L'atterrissage s'est fait sans heurts et l'avion devrait repartir demain matin. Les obsèques d'Antoine de Léaucourt et de Vincent Delahoury, enlevés le 7 janvier au Niger et retrouvés morts le lendemain au Mali, ont commencé à 15h à l'église Notre-Dame de Lincelles, près de Lille. Nicolas Sarkozy assiste à la cérémonie, très sobre, à la demande de la famille. La maire de Lille, Martine Aubry, l'ex-premier ministre Pierre Mauroy et le député du Nord, Jean-Louis Borloo, sont également présents. L'État va payer les cotisations de retraite des sportifs amateurs de haut niveau pendant les années où ils portent le maillot de l'équipe de France. C'est ce qu'a promis Nicolas Sarkozy en présentant ses vœux ce matin au monde sportif. L'avionneur européen Airbus conforte sa place de numéro 1 mondial devant son concurrent américain Boeing. Airbus a livré l'année dernière 510 avions et vient de signer un gros contrat de 5 milliards de dollars avec la compagnie Virgin America. À Toulouse, au siège d'Airbus, Stéphane Iglesis.
L'année commence bien avec la commande du 10 millième avion d'Airbus par Virgin America. Son PDG charismatique Sir Richard Branson est arrivé en béquille pour signer officiellement une commande de 60 avions A320neo, ces avions plus économes en carburant de 15%, des avions qui ne seront livrés qu'en 2016 seulement. L'A350, le nouveau long courrier composite d'Airbus, est toujours en phase d'étude. Nous avançons pas à pas, a indiqué Fabrice Brigier, qui est en charge de ce programme pour Airbus. Maquette numérique, câblage électrique, fuselage composite, tout est testé, les pièces livrées le sont aussi une à une. Il s'agit de tirer les leçons des erreurs du passé, des erreurs de l'A380, qui continuent à peser notamment sur les comptes économiques de ADS. Enfin, 3000 salariés seront embauchés cette année, la majeure partie d'entre eux en Europe et la moitié dans la région toulousaine.
La grogne des usagers de la SNCF s'étend. Après les abonnés de la ligne Angers-Le Mans-Paris, qui depuis le début de l'année font une grève de la présentation de leur titre de transport, les usagers des lignes Tours-Paris et des trains qui relient Arras, Douai, Dunkerque et Lille à l'Île-de-France feront de même demain. Ils protestent contre la dégradation du service sur ces lignes où les trains sont constamment en retard. Un débat avec Stéphane Hessel, auteur du best-seller « Indignez-vous, annulé » à l'École normale supérieure de Paris. Le colloque avait pour objet de soutenir une campagne de boycott contre Israël. Le Conseil représentatif des institutions juives de France et le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme avaient demandé cette annulation. Figurait notamment parmi les participants la déléguée de Palestine auprès de l'Union européenne, Leila Shahid, et une députée du Parlement israélien. Le comité d'organisation dénonce une atteinte à la liberté d'expression.
Tous les jours.
Toujours bon pied, bon oeil.
À partir de 11h.
Le fou du roi.
Stéphane Bern.
Oh là là, ça se réinstalle.
Oui. Pour assister au prochain Fou du Roi en direct du studio 106 avec Jean-Pierre Darroussin, Marc Dugain et Jean-Marie Pelt, rendez-vous demain mardi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Il y a embouteillage de gens bien dans cette maison.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi. Stéphane Bern.
Eh ben oui, oui, oui.
Tous les jours sur France Inter. À partir de 11h, France Inter. France Inter.
La différence.
Et à 16h05 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon pour le Carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne.
Carrefour de Lodéon.
Bonjour à tous. Cette émission sera consacrée pour la plus grande partie à l'Orchestre de Chambre d'Europe qui fête ses 30 ans et qu'on pourra entendre à Paris demain, mardi et puis mercredi aussi. Les deux concerts sont à 20h. Il s'agit des symphonies de Beethoven et c'est une partie seulement, bien sûr, la suite plus tard. Et c'est Bernard Haitink qui va diriger. Donc cet orchestre a produit de très nombreux disques. On va les entendre, évidemment pas tous, mais enfin une bonne partie. Et j'ouvre quand même l'émission avec une autre actualité très importante, Jules César de Handel, proposé au Palais Garnier, à l'Opéra de Paris, avec notre chère Nathalie Dessay, qui viendra d'ailleurs en parler, et puis écouter diverses musiques qu'elle a chantées elle-même, mercredi sur France Inter, Nathalie Dessay, et elle a produit aussi, elle propose un disque avec Emmanuel Haïm, chef d'orchestre, c'est le concert d'Astrée, c'est chez Virgin Classics, mais on y reviendra, parce que ce disque va nous accompagner durant toute la semaine. Voici l'ouverture de Jules César, elle chante Cléopâtre, Nathalie Dessay, mais ça se trouve dans Jules César, opéra de Georg Friedrich Händel.